bienvenue au balado L'investisseur transformé. Avez-vous l'impression qu'il y a trop d'options et d'opinions vous disant comment investir et planifier votre avenir financier? Grâce à son approche simple et directe, l'animateur Ruben Antoine de la firme Toulette Matthews et Associés vous guide à travers la complexité de l'industrie financière. Les sujets abordés dans ce balado vont transformer votre expérience d'investissement et augmenter vos chances de devenir libre financièrement pour toujours. Bonne écoute!
Bonjour et bienvenue dans l'Investisseur transformé. Votre animateur Ruben Antoine est avec vous aujourd'hui pour un épisode très spécial. Étant donné qu'on est dans la saison des impôts, on a voulu vous faire un épisode qui va avec cette période-là. Donc, ça traite de fiscalité aujourd'hui. Mais pas n'importe quelle fiscalité. On parle d'un sujet un peu plus niché, très niche. On va parler d'impôts pour non-résidents. Et puis là, par non-résidents, vous savez, quand on écoute les nouvelles, on parle beaucoup d'immigration, le nombre élevé d'immigrants qui arrivent au pays. Mais on parle peu d'émigration, hein, parce qu'on sait qu'il y a aussi la situation inverse. Beaucoup de Canadiens quittent le pays des fois pour aller vivre dans un autre pays où il fait plus chaud ou parce qu'il y a une opportunité de travail ailleurs. Bref, il y a près de 3 millions de Canadiens qui vivent à l'extérieur du pays. Et chaque année, dépendant des années, il y a environ 60 000 et 100 000 Canadiens qui quittent pour de bon le pays, ou du moins qui quittent pour plusieurs années. Donc, le sujet qu'on traite aujourd'hui peut toucher plusieurs personnes. On va vraiment aller en long et en large dans le sujet. On va explorer, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire quand on quitte le pays, parce qu'il y a des implications fiscales à juste quitter le pays, et aussi des tâches administratives qu'il faut faire. Donc, il y a ça. Il y a aussi, quand on quitte le pays, qu'est-ce qui arrive si on a encore des revenus au Canada, que ce soit des revenus d'investissement ou des revenus immobiliers, parce qu'on a loué nos biens immobiliers. Qu'est-ce qui arrive si on garde notre maison? Et sur le sujet d'immobilier, justement, il y a beaucoup de complexité, il y a beaucoup de mythes et réalités sur la propriété immobilière en tant que non-résident qu'on va éclaircir aujourd'hui. Donc, c'est quand même complexe. Qu'est-ce qui arrive si on décide de revenir au pays? Donc, c'est quoi les tâches administratives de retour, les implications fiscales? Donc, on va aussi, pour juste un autre exemple, traiter, vu qu'on sait que la crise immobilière au Canada, c'est un sujet de l'heure. On a souvent entendu parler des acheteurs étrangers ou non-résidents qui achètent des biens immobiliers à Vancouver, à Toronto et maintenant à Montréal, par exemple. Donc, le gouvernement a mis en place des mesures pour essayer de limiter ces achats-là ou aussi pour limiter des gens comme nous aussi pour juste acheter un bien immobilier et le laisser vide. Donc, c'est quoi ces mesures-là? On va entrer dans ces détails-là. Donc, vous voyez, il va y avoir quand même beaucoup de sujets, beaucoup de complexité quand même. C'est pour ça qu'il nous fallait une experte et on est chanceux d'avoir aujourd'hui avec nous Julie Côté, une comptable qui a sa propre firme du nom de Chaise Bleue, qui est spécialisée dans tout ce qui est non-résidence, fiscalité pour non-résidents, mais aussi immobilier pour les gens qui quittent ou pour les étrangers qui veulent acheter ici. Donc, très intéressant, très technique. Mais si vous sentez que ça s'applique à vous ou quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à partager l'épisode, à l'écouter pour en apprendre plus. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie, bienvenue sur le podcast L'Investisseur Transformé.
Bonjour Ruben, ça va bien?
Ça va très bien. Julie, on va commencer par apprendre un peu plus sur ton parcours professionnel. Mais je suis particulièrement curieux comment tu t'es retrouvé à travailler dans cette niche de la fiscalité pour non-résidents et propriétaires étrangers d'immobilier. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, ça serait apprécié.
Oui, bien, c'est particulier. Hein? C'est les histoires de la vie. Moi, j'ai un baccalauréat en administration des affaires et un certificat en comptabilité. Et à un moment, on change d'emploi. Je trouve ça en 2006. Assistante, adjointe, sous une personne qui faisait déjà ça. C'est une niche très particulière. Je pense qu'on est quatre au Québec à toucher ce sujet-là. Donc, je rentre là en 2006, ne connaissant absolument rien, et la personne qui était là m'a formée. Quelques années plus tard, elle est partie dans un autre département. J'ai repris le relais. À l'époque, on avait peut-être 200 quelques clients et la clientèle clé était tout alentour du Mont-Tremblant. Il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs étrangers alentour des stations de ski, c'est compréhensible. Et ça, c'était la niche. Donc, on parle d'environ 200 clients à ce moment-là. Et on faisait que ça. C'est du récréo-touristique. C'est une sur-niche, donc une niche dans une niche. C'était très intéressant. Et puis là, en 2011-12, j'ai commencé à développer Montréal. Là, on tombait dans le résidentiel, c'est similaire. Donc, on a développé ça auprès des courtiers, auprès des notaires, auprès des clients. Et maintenant, 16 ans plus tard, je suis rendue avec presque 500 clients réguliers et on assiste à peu près 200-250 ventes de propriétés par année, donc des reventes. C'est rendu une super belle niche où on s'attendait à rien, puis finalement, avec un petit peu d'effort, ça a fructifié. Et c'est un domaine qui est très, très vivant. C'est beaucoup de l'individu. Donc, on vient chercher des émotions. L'immobilier et l'individu, c'est quelque chose depuis le début des temps que c'est lié émotivement. Donc, on parle pas tant business, on parle plus de vie quotidienne, de gens normaux, et c'est vraiment intéressant.
Tu travaillais pour une autre firme comptable avant et éventuellement tu as lancé ta propre firme, Chaise Bleue.
Exactement. Donc, depuis 2006, bon, toutes les firmes où j'ai travaillé se sont faites racheter d'une façon ou d'une autre. Donc, on a fait peut-être saut de mouton d'une place à l'autre. La dernière place où j'étais était un grand cabinet, le cinquième plus grand cabinet au monde, BDO Canada. Et en mai 2023, je suis partie de mes propres ailes. J'ai ouvert mon cabinet privé où je vais continuer mes activités professionnelles de la même façon avec les mêmes clients. Donc, maintenant, je suis autonome. Cabinet Chaise Bleue.
OK, vraiment intéressant. Et tu as cette expertise dans tout ce qui a trait à la fiscalité pour non-résidents. Donc, parlons justement du statut de non-résident. On le voit parfois des gens qui décident de quitter le pays, soit parce qu'ils ont une opportunité d'emploi à l'étranger ou pour des raisons familiales, ou on le sait, il fait froid ici. Donc, des fois, on décide d'aller passer notre retraite dans une région tropicale. Donc, quelle est la procédure à suivre pour devenir non-résident du Canada?
C'est une excellente question. On en voit beaucoup, on en accompagne beaucoup. La spécialité des non-résidents, c'est très, très particulier parce que d'une situation à l'autre, les facteurs changent tout. C'est vraiment une question d'être résident ou non-résident. Beaucoup, le gouvernement va se baser sur les intentions et sur où on habite, où est-ce qu'on est physiquement, puis par la suite, va vouloir peut-être évaluer des critères secondaires. Les critères secondaires et les critères tertiaires. Donc, principal, c'est où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est physiquement au Canada de façon habituelle? Est-ce que notre vie habituelle est au Canada? Ensuite de ça, des critères secondaires, c'est beaucoup en lien avec notre famille. Est-ce qu'on a des enfants dont on a la garde qui habitent au Canada? Est-ce qu'on a un conjoint dont on n'est pas séparé qui habite encore au Canada? Mais encore là, j'ai des clients qui, toute leur famille est au Canada et eux sont à Dubaï et la personne qui est à Dubaï est non résident et tout le reste de sa famille est résident canadien. Ensuite de ça, on tombe dans le troisième niveau de lien. Là, on va parler des comptes bancaires, de propriété, d'investissement, de voitures, de vêtements. Mais on va être honnête là, que la présence au Canada représente à peu près 90% dans la balance. La famille, un 5, 6, 7 %, puis les autres actifs, c'est des peanuts. C'est vraiment pas grand-chose. C'est des facteurs que si on a tout ça de rassemblé, il y a beaucoup plus de chances qu'on se retrouve à être résident canadien. Le gouvernement a intérêt à nous considérer résidents canadiens la majorité du temps parce qu'ils veulent nous fiscaliser sur nos revenus perçus ou gagnés à l'extérieur du Canada. Mais parfois, c'est clair. Blanc versus noir, que la personne, elle est non résidente. Donc, à ce moment-là, on ne se pose même pas la question. Quand on se pose la question, puis que c'est vague, on encourage nos clients à demander une détermination de statut de résidence auprès de Revenu Canada. C'est la seule entité qui peut déterminer, hors de tout doute, la résidence fiscale de quelqu'un. Ça se fait à travers une série de formulaires, le NR73, Quitter le Canada, et c'est un formulaire de 4 pages qui demande ce que vous avez dans un pays, ce que vous avez dans l'autre pays, quelles sont vos intentions. Si vous avez l'intention de revenir à court terme, moyen terme, long terme, c'est sûr que quand l'intention de revenir à long terme, elle est plus visible, on tombe dans le non-résident. Le gouvernement aime pas trop les gens qui rentrent, qui sortent, qui rentrent, qui sortent. Donc, le court terme, souvent, va être considéré comme un résident canadien malgré qu'il habite à l'extérieur. Mais tout ça, bien entendu, consultez un spécialiste en la matière. Référez-vous à Revenu Canada là, pour faire les déterminations.
Alors, je suis complètement d'accord avec toi, puis on entend souvent parler de, tu sais, tu parlais des critères primaires, secondaires, tertiaires, là. On entend souvent les gens disent, il faut couper tous les liens, il faut, avec le Canada pour éviter des conséquences fiscales fâcheuses. C'est de ça que tu fais référence, hein? C'est de toute cette détermination-là de voir c'est quoi les liens, puis c'est quoi que le gouvernement va considérer plus important et moins important. Et puis c'est une détermination vraiment importante à faire pour pas avoir de surprises.
Exact. Il faut faire attention. On n'est pas obligé de se départir d'absolument tout. C'est pas parce qu'il nous reste le chalet à Mont-Tremblant que soudainement on va devenir résident canadien malgré qu'on habite aux États-Unis depuis 5 ans. Donc, il faut faire la part des choses. Dans une situation comme celle-là, exemple, j'aurais un chalet à Mont-Tremblant et j'habite en Floride de façon régulière, mais je suis tout le temps, je passe 5, presque 6 mois au Canada dans mon chalet à Tremblant. Peut-être que là, ça va peser dans la balance. Tandis que si je fais seulement le posséder, je viens 2, 3 semaines dans l'été, c'est ma famille qui s'en sert, je le loue, quelque chose comme ça. Vraiment, là, le poids dans la balance, il n'est pas très lourd. Moi, je le vois toujours comme une balance. Qu'est-ce le poids vers le pays où on habite et le poids vers le Canada. C'est sûr que je dis jamais à mes clients de fermer leur compte bancaire. C'est toujours utile. Ils peuvent garder leur REER, ils peuvent garder leurs investissements. Ce qui est dangereux un peu ou plus problématique, c'est quand on a des parts d'entreprise, ça devient compliqué pour l'entreprise. Ça ne fait pas non plus nécessairement nous un résident canadien, mais il y a des choses là qu'il faudrait mieux ficeler avant de s'en aller.
Tout ce que tu viens de partager, Julie, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que moi-même, quand j'ai eu mon titre CA, l'ancien titre comptable qui est devenu CPA maintenant, je me souviens dès que je l'ai eu en poche. Moi, je viens des Caraïbes originellement, donc on s'entend l'hiver, j'aime pas trop trop ça. Quand j'ai eu mon titre, je me suis dit, c'est tout, je l'ai en poche, je repars dans les Caraïbes et puis j'ai déménagé en fin de compte aux îles Vierges avec ma conjointe. Puis on a dû passer à travers tout le processus que tu viens d'exprimer de couper beaucoup de liens. Heureusement, j'étais plus jeune, j'avais pas encore de maison, j'avais une auto, je l'ai vendue, couper la carte maladie, mais j'ai gardé mon permis de conduire, un compte bancaire. Là, je suis revenu, mais dans le temps, j'avais aucune intention de revenir. Là, j'étais comme, c'est fini avec l'hiver. Mais c'est sûr que c'est un processus, comme tu dis, puis c'est vraiment important de pas juste partir, hein, de s'informer, de consulter un professionnel pour faire les choses, correctement, définitivement.
Très bien dit. Consultez dès que vous avez l'intention, vous formulez le projet de déménager du Canada. Ce n'est pas une petite chose que de quitter un pays pour un autre. Idem pour venir au Canada à partir d'un autre pays. Toujours consulter un professionnel. Voyez quelles sont les implications avant de faire votre move, votre geste définitif. Parce qu'après les faits, on ne peut plus rien corriger, on ne peut plus rien réaligner, on doit seulement gérer les conséquences.
Exactement. Mais justement, à la date de départ du Canada, c'est quoi les règles, c'est quoi les obligations fiscales de partir et puis toute implication après s'il y a lieu d'être non-résident?
C'est une très bonne question. Merci beaucoup de l'apporter. Je vois trop souvent de clients ou de gens qui ont quitté le Canada. Puis que ben, parfois, ils n'ont même pas fait leur dernière déclaration canadienne, ça c'est important. Malgré qu'on n'est pas présent au Canada au 31 décembre, on a toujours l'obligation de produire une dernière déclaration auprès de Revenu Canada et Revenu Québec si c'est applicable, leur indiquer notre date de départ et une liste de tous nos actifs à travers le formulaire T1161. Ce formulaire-là, 9 fois sur 10, n'a pas été complété. On produit fréquemment des divulgations volontaires pour venir indiquer au gouvernement, oups, ça n'a pas été fait, on va le faire parce qu'il y a une pénalité de 2 500 $ par personne quand ça n'a pas été fait, plus les intérêts. C'est ça, je vois rarement des comptables ou des particuliers le faire. Donc ça, c'est la première chose. On va lister tous nos actifs, incluant nos propriétés. Parfois, dépendamment si c'est Canada ou Québec, on doit lister aussi nos REER et des choses comme ça, des parts d'entreprise, bien entendu. Voilà, c'est important. Aussi, au moment de partir, si on a encore des actifs immobiliers, on doit leur donner une juste valeur marchande. Donc, au moment où j'ai quitté le Canada, voici les actifs que j'avais. Si c'était ma résidence principale, je devrais prendre l'exemption pour résidence principale parce que ça ne s'appliquera plus pour le futur. Très, très important, les valeurs marchandes, c'est demandé dans le formulaire T1161, liste des biens détenus par un immigrant. Voilà, donc faites évaluer tout ce que vous possédez, si vous avez des parts d'entreprise, si vous avez des REER, si vous avez des propriétés. On n'oublie pas les terrains, les chalets, le condo que grand-maman l'habite dedans. Tout ce qu'on possède qui est dans notre portfolio, faut le lister.
Mais tu as mentionné tout ce qu'il faut lister. Je comprends qu'un REER, un CELI, un compte d'investissement, c'est facile de voir la valeur. On regarde sur le revenu de placement, on voit la valeur. Mais tous les actifs plus corporels, tangibles, comme l'immobilier, un terrain, est-ce qu'il faut engager un évaluateur agréé ou on peut prendre l'évaluation sur le compte de taxes? Comment tu vois ça? Quel montant qu'on met?
Le gouvernement n'apprécie pas les évaluations des villes. Et on va être d'accord que si on les regarde, Si je regarde l'évaluation pour ma maison, en ce moment, ça dit peut-être 300 000 $, mais je sais très bien que mon voisin vient de vendre 500. Donc, ce n'est pas la juste valeur marchande. C'est une valeur qui est établie pour 3 ans en plus. Donc, elle ne varie pas pour une fin de taxation foncière. Puis, on la veut basse parce qu'on ne veut pas payer plus de taxes municipales ou scolaires que nécessaire. Mais à ce moment-là, moi, j'invite toujours les gens à aller chercher en priorité un rapport d'un évaluateur agréé. Si ce n'est pas possible ou si vous trouvez que c'est trop dispendieux, peut-être se tourner vers un courtier immobilier, mais dans ce cas-là, demander un rapport d'un courtier avec des comparables, avec une analyse. On veut voir les mathématiques en arrière de la chose. Et puis là, quand le gouvernement viendra investiguer, on pourra supporter le montant qu'on a déterminé.
OK, ça, c'est très important à savoir. Puis, tu as aussi mentionné, je vais rebondir sur un autre détail que je trouve important, qu'il faut produire une dernière déclaration de revenus. Puis là, on parle de biens à divulguer, dernière déclaration de revenus. Je pense que tous les biens sont réputés être disposés. Peux-tu nous dire un peu plus là-dessus? C'est quoi l'impact de ça? Ça veut dire quoi être réputé être disposé? Puis, c'est quoi l'impact de ça?
Donc, au moment du départ, il y a une disposition présumée qui se fait de tous nos actifs. Ça veut dire qu'on se les vend soi-même ou on s'en départit pour la nouvelle personne que l'on sera en tant que non-résident.
Donc, ils sont vendus, mais pas vendus, genre.
Exact, exact.
Le gouvernement veut aller chercher son impôt, dans le fond.
Il n'y aura pas d'impôt. Dans la majorité des cas, il n'y aurait pas d'impôt parce que, un, la maison qui est notre résidence principale, on va venir prendre l'exemption. Les autres propriétés étaient déjà imposables. Elles vont continuer leur fil de vie en étant imposables. On ne paye pas de l'impôt sur la plus-value à ce moment-là. On va la payer lorsqu'on va vendre.
OK.
Le plus important, c'est vraiment la résidence principale, venir fixer cette valeur-là parce que dans le futur, ça va avoir une conséquence. Puis bien sûr, on veut la valeur la plus élevée possible pour un prochain bond vers une revente.
Oh, parce que la valeur qu'on va mettre va devenir le coût qu'on va le revendre après pour l'augmentation future. Donc, on veut que le coût soit le plus élevé possible pour que les gains en capital soient moins élevés dans le futur. OK, je comprends. Mais c'est sur quel bien qu'il y a des impôts par rapport à une disposition présumée s'il y a lieu?
Il ne devrait pas en avoir en principe, mais peut-être les parts d'entreprise, mais ça, il faudrait consulter un CPA et consulter le CPA de l'entreprise elle-même. Peut-être pas quelqu'un qui fait nos impôts, mais la personne qui fait les impôts de l'entreprise pour voir quel type d'action il s'agit, est-ce que c'est privilégié, ça ne l'est pas, etc. Il y a tellement de choses dans le corporatif, il faut vraiment faire attention.
OK. Et moi, étant un gestionnaire de portefeuille, un conseiller en placement, les REER, les CELI, les CELIAP, les REER, les FER, il n'y aurait pas d'impôt au départ. On comprend pour ça, mais qu'est-ce qu'il y en a là? On parle, là, juste pour encore comprendre tous les différents impacts de quitter le pays. Qu'est-ce qui se passe avec l'éligibilité à différents programmes sociaux comme l'assurance maladie, si on a des enfants, l'allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS, mais aussi les régimes de pension publics et tout autre avantage sociétal fourni par les organismes gouvernementaux.
Je recommande toujours à mes clients d'aviser le gouvernement le plus rapidement possible, les gouvernements, de leur départ, s'ils reçoivent des prestations de quelque source que ce soit. Si c'est TPS, solidarité, les prestations pour les enfants, l'assurance emploi, l'assurance parentale en congé de maternité ou de paternité, c'est important parce que eux vont continuer de vous verser les sommes. Et là, ils vont apprendre rétroactivement que vous avez quitté. Et là, ils vont dire, s'il vous plaît, remboursez-nous avec intérêt. J'ai vu trop de cas similaires où des milliers de dollars devaient être remis au fisc. Donc, très important, aviser pas seulement Revenu Canada et Revenu Québec, appeler ces organismes parce que malheureusement, ils ne se parlent pas trop. Donc, appeler tous ces organismes, leur dire, je quitte. Puis là, s'ils vous ont déjà versé quelque chose pour une période qui dépasse, ils vont probablement faire un prorata, vous demander une différence. Ou si c'est une date future, ils vont vous faire votre déboursé là, d'une façon proratée.
Parce que dans le fond, je comprends, c'est logique. Si on part, donc on va plus payer de l'impôt au Canada, on ne devrait plus être éligible à ces différents programmes sociaux-là. Donc, on perd notre éligibilité. Donc, c'est important, je comprends, de contacter les instances gouvernementales pour les laisser savoir qu'on part pour éviter de rembourser le tout. Mais est-ce qu'il faut aussi contacter les institutions financières où on a des comptes, par exemple?
C'est excellent que vous me posiez cette question-là. Oui, il faut aviser vos banques que votre statut fiscal a changé. Vous allez taxer un peu différemment. En fait, vous allez taxer à la source plutôt que d'être taxé au moment où normalement vous produiriez vos impôts, vos déclarations d'impôts. Ils vont vous faire la retenue à la base selon les prescriptions fiscales, dépendamment du type de revenu, etc. Vraiment très important d'aviser les institutions financières. Si l'une d'entre elles comprend pas trop le concept, je recommande à mes clients d'aller encore une fois chercher la détermination de statut avec Revenu Canada pour que vous receviez une belle lettre que vous envoyez ensuite à votre institution financière pour me démontrer que vous êtes vraiment non-résident, que vous devez être imposé de cette façon-là. Parce que normalement, un non-résident sur ce type de revenu-là n'a pas à déclarer au Canada. L'impôt qui va être retenu sur ces prestations émises par les diverses institutions financières va déjà être imposé. Ça va être de l'impôt final. Si possible, ils vont le rapporter dans leur pays où ils habitent de résidence. Mais si on habite dans un pays où il n'y a pas de système fiscal, comme les Émirats Unis, ben c'est de l'impôt final et c'est fini là.
Mais cette retenue-là, c'est un peu comme les gens qui sont au Canada qui travaillent, puis dans notre paie, on voit une retenue d'impôt. Donc, c'est une retenue qui est faite directement par l'institution financière sur le revenu d'intérêt ou le revenu de dividende qu'on a gagné. C'est de combien?
Ça varie de 10 à 25 %. En lien avec la carte d'assurance maladie, normalement, on devrait la remettre, la retourner lorsqu'on quitte. À date, j'ai pas vu beaucoup de gens se faire pourchasser par le Québec pour remettre la carte, mais techniquement, on doit remettre la carte, la retourner dans la poste au système d'assurance maladie.
Je pense que peut-être que les gens se feraient pourchasser s'ils reviennent en vacances ici puis essaient d'utiliser le système de santé. Moi, je me rappelle pas si j'avais remis, mais j'avais appelé puis ils avaient annulé. Ils m'avaient dit que c'est fini. Là, je peux plus avoir accès, mais je me rappelle pas qu'est-ce que j'avais fait, mais c'est un bon point. Parlons de quelques cas communs au niveau des actifs, c'est REER, CELI, etc. Qu'est-ce qui se passe en étant non résident? Est-ce qu'il y a des impacts fiscaux ou des considérations à prendre en compte?
En fait, le REER, on peut le conserver, il n'y a vraiment pas de problème. On peut continuer d'y contribuer sans aucun problème. C'est sûr que notre plafond ne va pas augmenter avec les années puisqu'on n'a pas de revenu imposable à déclarer au Canada. Vous savez que c'est relié avec chaque année notre revenu. Donc, on peut toujours le plafonner, il n'y a vraiment pas de problème. Ça ne donne pas vraiment de crédit d'impôt. Moi, j'ai des clients qui ont du revenu de location, puis on le met, mais ça fait quelques dollars, c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pour les gens qui ont l'intention de revenir se retraiter au Canada. Donc ça vaut la peine de le continuer. Si jamais vous voulez sortir le REER pendant que vous êtes non résident, c'est un petit peu plus avantageux parce que le taux d'impôt, il est plus bas. Par contre, la banque va absolument demander la lettre de détermination de statut pour pouvoir faire la retenue quand on fait sortir les fonds. La retenue, c'est 25 %. C'est topé à 25, c'est maximum 25. Alors que vous et moi, on paie le minimum 30 % Canada-Québec sur nos impôts. Donc, c'est très avantageux de le sortir pendant qu'on est non résident. C'est sûr que c'est toujours dans l'optique qu'on ne reviendra pas se retraiter au Canada. Ça, c'est pour les REER. Les CELI, on peut les garder, on peut les sortir, vraiment pas de problème, mais c'est totalement interdit de continuer d'y contribuer. Ils vont le voir tout de suite. Ils vont vous faire une pénalité. C'est assez horrible, ils vont le sortir, etc. On ne veut pas de ça. Donc, les CELI, gardez-les si vous avez l'intention de revenir au Canada ou s'ils font une belle fructification, laissez-les là, mais autrement, vous pouvez les sortir. Pour le régime d'épargne pour les enfants, c'est un peu plus compliqué. Faites un petit peu du cas par cas, dépendamment à quel âge vous avez commencé, si le gouvernement a donné ses parts. Techniquement, vous pouvez sortir la portion que vous avez mis, vous allez perdre la portion du gouvernement, bien entendu.
Julie, continuons dans l'immobilier. Un citoyen, un résident canadien possède une maison, peut-être un chalet, une propriété à revenus. Puis là, il quitte le pays. Donc, certains disent qu'il faut absolument vendre tous les biens immobiliers si l'on part ailleurs. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est vrai?
Dans mon opinion et dans mon expérience, ce n'est pas vrai. J'ai beaucoup, beaucoup de clients qui ont quitté le Canada, conservent leur propriété ici. Ce que les gens ont peur, puis ça vient rejouer dans notre détermination de statut de résidence, les gens ont vraiment peur que leur maison, leur chalet fasse d'eux des résidents fiscaux du Canada et que là, ils soient pris pour payer de l'impôt au Canada. Si tous les autres facteurs sont importants, c'est-à-dire qu'on n'est pas physiquement au Canada, disons que toute notre famille est avec nous aux États-Unis ou en France, la maison au Canada va avoir un poids insignifiant dans la balance, à savoir où on habite. Ensuite de ça, il n'y a pas d'impôt particulier à payer si on est citoyen canadien ou résident permanent du Canada en lien avec ces propriétés-là. Bien entendu, si c'est une propriété à revenus, On va avoir des obligations fiscales envers le Canada. Tout revenu qui est généré au Canada est imposé au Canada, que ce soit le revenu de location. Tantôt, on a parlé des revenus de placement, mais eux sont imposés à la source. Et sur le gain en capital, que ce soit de vente d'actions ou de vente de propriété. Mais mis à part ça, si on est citoyen canadien ou résident permanent, puis que nos actifs ne font rien, on n'a rien à faire.
Si on pense aux Canadiens qui ont quitté, qui ont un bien immobilier, qui décident de le louer, mais là, pendant qu'ils sont en résidence, ça serait quoi leurs obligations par rapport à ça?
Les obligations pendant que quelqu'un est non résident, et ça inclut les non-canadiens, il y a une retenue de 25 % des loyers bruts qui doit être envoyée à Revenu Canada à tous les mois. Ça s'appelle la partie 13 de la loi de l'impôt. Donc ça, c'est l'obligation numéro un. Avant de faire toute autre chose, on doit faire une retenue à la source de 25 % et l'envoyer au fisc. À la fin de l'année, on peut produire une déclaration d'impôt, mais réclamer cet impôt qui aura été payé à l'avance en divulguant nos dépenses contre nos revenus. Donc ça, c'est très, très important. Beaucoup de gens ne font que la deuxième partie qui était conditionnelle à la première, c'est-à-dire qu'ils produisent la déclaration d'impôt pensant qu'ils sont corrects, alors qu'ils ont un manquement en amont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait les retenues de 25 % tous les mois. Voyez les retenues de 25 % comme la déduction que votre employeur fait sur votre paye, qui fait qu'au bout de la ligne, une partie de votre impôt est déjà payée sur votre revenu. C'est identique pour les non-résidents. Défaut de remettre le 25 % engendre une pénalité sous la forme d'un intérêt de 10 %, et sur plusieurs années, ça monte à des milliers et des milliers de dollars. Malgré que la personne aurait fait ses déclarations d'impôt et payé l'impôt final, si cette portion-là n'a pas été faite, on les rattrape au moment de la vente et là, on les cotise dans le passé sans limite. C'est-à-dire qu'on peut retourner jusqu'à l'acquisition de la propriété et non pas 7 ans. Donc, c'est très, très pénalisant. Encore une fois, si moi, la petite chose que je veux mettre dans la tête des gens, vous générez un revenu au Canada, tout de suite, son de cloche, parlez à votre comptable.
Puis si on ne produit pas cette déclaration de revenus-là, est-ce qu'il y a des conséquences?
Comme toujours, quand on...
Je ne sais pas pourquoi je pose la question.
Oui, il va y avoir des conséquences. Puis là, les gens me demandent souvent, oui, mais comment ils vont savoir? Ils vont savoir quand que vous allez vendre. Au moment de la vente, il y a une petite barrière fiscale qui se lève. Le notaire a des obligations légales et fiscales. Et là, tout remonte à la surface et, bon, pénalité, intérêt, etc., vient en jeu.
OK, donc pour continuer avec la chaîne d'idées, on part, on décide de garder ce bien immobilier-là ou cette propriété à revenu parce qu'on n'est pas obligé de le vendre. On fait nos obligations fiscales chaque année, on fait notre déclaration de revenu, on paye notre impôt s'il y a lieu. Mais on est devenu non-résident maintenant et plus tard, on décide de vendre son bien immobilier pendant qu'on vit à l'étranger. Est-ce qu'il y a des implications fiscales à ça?
Oui, et ça, on fait beaucoup, beaucoup de consultations là-dedans, puis ça va aussi rentrer dans, quand je vous disais tantôt, consulter quelqu'un avant de partir du Canada. C'est une action qui est très importante. Si vous avez des propriétés et que vos intentions ne sont pas de les garder, on va probablement vous conseiller de les vendre avant de quitter pendant que vous êtes résident canadien. Selon les bulletins de l'Agence du revenu du Canada, pour les fins fiscales de la vente d'une propriété, quelqu'un devient non résident le jour où il quitte le Canada. Pas après 383 jours d'être ailleurs. Donc ça fait très mal. Je vois trop de gens quitter et vendre 2 semaines plus tard et là, ils se retrouvent chez le notaire dans une situation fâcheuse. Et oui, c'est fâcheux, malheureusement. On est là pour les aider, mais ça rend pas la chose moins triste. Des certificats de disposition sont nécessaires. C'est-à-dire qu'on doit envoyer des formulaires prescrits, un dossier complet à Revenu Canada et à Revenu Québec et leur demander de calculer l'impôt sur la plus-value, d'appliquer les exemptions pour résidence principale s'il y en avait. Et par la suite, bon, de nous dire s'il y a de l'impôt à payer, c'est le notaire qui va payer l'impôt. Et là, par la suite, ils nous envoient des beaux certificats disant que tout est beau et ils autorisent la transaction. La transaction va quand même avoir lieu sans les certificats. Ça prend 6 mois à 8 mois à obtenir, donc c'est très long. Le notaire, pendant ce temps-là, va retenir 38 à 65 % du prix de vente.
Oh wow, quand même.
Et ça fait très mal. Dans une situation où j'aurais un couple qui a quitté 2 semaines avant, c'était leur résidence principale, c'est totalement exempté, mais malheureusement, ils n'ont pas fait de consultation. Et là, on se retrouve dans une situation où parfois l'hypothèque est très élevée. Le notaire n'est pas capable de faire une retenue. La retenue, mettons, sur notre prix de vente, là, 100 000, c'est 38 000. J'ai une hypothèque qui était à 80 %, ça marche plus. Le notaire demande au vendeur d'apporter de l'argent sur la table pour compenser. C'est tout un cauchemar, tout ça pour finalement se faire dire qu'on ne doit pas d'impôts. Mais quand il y a un non-résident, le gouvernement est très, très, très inquiet et ils ont un peu raison à voir le nombre de personnes qui ne font pas leur dernière déclaration avant de quitter le Canada. Ces transactions-là doivent être apportées dans la dernière déclaration canadienne et c'est là qu'on doit se prévaloir de notre exemption pour les résidences principales. Donc, le gouvernement a vraiment peur que les gens quittent sans payer leur gain en capital. Et c'est de là que ça vient. Mais c'est très triste quand on n'a pas consulté, qu'on n'a pas fait un plan fiscal pour déterminer est-ce qu'on part avant ou on part après, est-ce qu'on trouve un Airbnb à rester pendant 2 mois jusqu'à temps qu'on quitte. Voilà, c'est là que le bas fait mal. Parfois, j'ai des gens qui finalement vont réussir à vendre 1 an ou 2 ans plus tard. Et puis là, la propriété n'est plus totalement exemptée. On a de l'impôt à payer. Et voilà, c'est très choquant. Une autre recommandation que je ferais, là, on parle de partir et de vendre. Je veux juste passer un message aux auditeurs aujourd'hui. Quand vous avez un projet d'acquisition, moi, ma spécialité, c'est l'immobilier, donc je vais parler de ça. Parlez à votre comptable de votre projet immobilier. Trop souvent, on va parler à la banque, on va parler au courtier, on va parler à nos amis. S'il vous plaît, parlez à votre comptable. J'attrape beaucoup trop de clients qui sont déçus de leur investissement parce que les mathématiques n'ont jamais été faites, parce que les incidences fiscales n'ont jamais été observées, calculées et analysées. Et là, ils sont déçus parce que, ouh, ils découvrent que, ben oui, ça s'ajoute à mon revenu de toute autre source, de mon revenu d'emploi. Je change de braquette d'impôt. J'aurais peut-être dû acheter ça avec ma mère ou avec mon frère ou avec ma conjointe, séparer ça en deux ou en trois. J'aurais peut-être dû le mettre dans une compagnie. Voilà, ça, c'est mon message d'intérêt public.
Hey, tellement bon point parce que non seulement des fois les gens ne font pas de calcul de rendement pour voir si cet investissement immobilier-là est un investissement viable, mais des fois s'ils font un calcul rapide, ils ne font pas le calcul après impôt. Donc si on fait toutes les estimations, projections possibles, ça montre un rendement intéressant, mais on met pas aussi le coût fiscal qui allait rendre le rendement un peu moins intéressant. Peut-être ça aurait changé, on aurait changé d'idée à acheter ou à pas acheter ce bien immobilier-là. Donc, l'importance du comptable, hein, Julie?
Exactement.
Julie, on a parlé beaucoup des gens qui quittent le Canada. Je pense qu'on a pris une bonne partie de l'épisode pour parler de ça, mais il y a aussi les non-résidents qui viennent au Canada. Soit des gens qui ont quitté, qui reviennent. Par exemple, ils sont nostalgiques, qui ont une nouvelle opportunité de carrière au pays, qui les motive à retourner, ou ils veulent être proches de leurs parents vieillissants, par exemple. Tu sais, moi, je parlais plus tôt de mon départ quand je suis parti à peu près 5 ans à l'étranger, là, aux îles Vierges au début et puis à Londres. Moi et ma conjointe, on voulait rester là pour toujours. On avait décidé de quitter le pays pour toujours, mais éventuellement, on commençait à penser à bâtir une famille, à avoir des enfants. Puis on disait, ouf, élever un enfant à Londres, c'est pas idéal. Puis Montréal, c'est une super ville et puis on voulait qu'il grandisse au Québec. Donc, on est revenu. Puis, donc, moi, j'aimerais que justement, tu nous dises un peu. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les non-résidents qui souhaitent revenir au pays? À quoi ça ressemble la procédure du retour?
OK. Dans cette question-là, il y a 2 volets. On va parler des expats, c'est-à-dire les gens qui ont déjà habité au Canada et qui reviennent.
Comme moi, ouais,
Puis, on va
c'est
parler
vrai.
des immigrants après. Donc, on va commencer par les expats qui reviennent au Canada. De un, je vais donner le conseil inverse, vérifier avec un expert comptable dans le pays que vous quittez, quelles sont les incidences de quitter ce pays-là. Une fois que tout ça est fait, que vous êtes d'accord avec les conséquences, on rentre au Canada. Première chose qu'on fait, c'est qu'on appelle les deux gouvernements, on appelle la carte d'assurance maladie, les prestations pour les enfants. Donc, on appelle tous les organismes, leur dire de réactiver nos dossiers. Donc, on sort ça du congélateur, on redevient Canadien, on est tout chaud. Et ensuite de ça, bon, pas de problème, on trouve un emploi, tout est super. Première déclaration à faire au Canada, c'est bien entendu la date de notre retour. C'est une déclaration qui va devoir être faite de façon papier, malheureusement. Tout comme celle quand on quitte le Canada doit être produite sous papier. Posez-moi pas de questions, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, vous reprenez votre vie là. Quand on était Canadien et on revient, c'est comme remettre des vieilles pantoufles. C'est super, il n'y a vraiment pas de problème. C'est plus de voir avec notre pays que l'on quitte. Si on a gardé des choses avec le pays qu'on quitte, consultez votre comptable à savoir s'il y a des incidences fiscales au Canada. Dépendamment de quel genre d'actif que c'est, si c'est loué, si ça a une certaine valeur, parlez avec votre comptable, divulguez ces actifs ou ces biens-là, c'est très important. Puis là, vous serez imposé de la bonne façon au Canada. Pour les immigrants, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, il faut passer à travers le système d'immigration qui est un système légal et qui n'est pas un système fiscal. Je suis certaine que la majorité des gens qui émigrent au Canada ont un avocat en immigration qui les guide. Dès qu'on fait notre landing au Canada, c'est-à-dire le jour où on est reçu, c'est notre premier jour d'obligation fiscale au Canada. Encore une fois, ça va être important de vérifier dans l'autre pays qu'est-ce qu'on a. Le pays qu'on quitte, est-ce qu'il y avait un système fiscal qui demandait une certaine procédure de départ? Ensuite de ça, on fait les demandes d'application pour les numéros d'assurance sociale. Ça, encore une fois, c'est l'avocat en immigration qui va s'occuper de ces choses-là. Et puis là, on devient imposable le jour où on atterrit au Canada. Ils appellent ça le landing day, où tout ce qu'on possède et tout ce qu'on génère à travers le monde devient imposable au Canada.
Là, si je reviens aux expats, on a parlé beaucoup d'immobilier. Donc, mettons qu'on prend un Canadien qui est parti, mais qui avait gardé sa maison principale, qui est devenu un bien locatif, tu sais, il l'a loué en attendant. Et là, il veut reprendre sa maison comme résidence principale. Il y a des choses à faire attention ici.
Oh, absolument, ça arrive trop souvent. Mais ça, en fait, ça va faire partie de ce qu'on va se parler quand la personne va quitter. Mais mettons que la personne n'a pas consulté et n'a pas fait de plan fiscal pour son départ et son retour. Souvent, je vais demander à mes clients quelles sont vos intentions. OK, cette maison-là, c'était votre résidence principale. Oui, maintenant, vous allez la louer. Mais sachez que quand vous allez revenir, si vous voulez réintégrer cette maison-là, ce n'était plus une résidence principale, c'était un actif. C'était un investissement et là, vous faites une conversion, un changement d'usage de investissement à personnel et il va avoir une imposition. Il y a une juste valeur qui va être établie au moment de votre intégration du logement entre la juste valeur marchande au moment de votre départ et la nouvelle juste valeur marchande. Vous le vendez à vous-même, bref. Ce n'est pas très avantageux. Nous, dans des dossiers comme ça, c'est bien entendu, on ne prend pas d'amortissement sur quoi que ce soit pour pas qu'il y ait d'amortissement qui est repayable à ce moment-là. Mais moi, je remets toujours l'idée dans la tête de mes clients que sachez que si vous réintégrez, vous allez avoir un impôt à payer. Soyez conscient de ça. Donc, ça, c'est un choix. On revient, on reprend possession de ce bien-là. Le deuxième choix, c'est on le vend, puis on achète autre chose. Comme ça, on a le gain en capital, on a un gentil acheteur qui nous a amené de l'argent pour payer l'impôt. En plus, on a récupéré notre capital investi, puis là, on achète autre chose. Ou on achète carrément autre chose et on garde cette première propriété-là comme un investissement. Donc, en fond, c'est comme trois choix. Il y en a deux qui se ressemblent énormément. Ça dépend vraiment, des capacités financières des gens. Il y a des gens qui vont être capables d'hypothéquer la première maison pour acheter une deuxième maison. Mais au moins, ils sont conscients que s'ils reviennent et ils reprennent cette propriété-là du locatif vers le personnel, il y a une imposition qui va avoir lieu.
Tantôt, à ma question précédente, quand je parlais des Canadiens qui reviennent, tu as fait la distinction entre le Canadien qui était parti qui revient ou l'immigrant là, qui arrive au Canada comme nouvelle terre d'accueil. Mais mettons, si on parle d'une troisième catégorie qui sont ni les Canadiens, ni l'immigrant qui veut vivre ici, mais des étrangers qui veulent acheter un bien immobilier au Canada. On le sait là, c'est un sujet quand même chaud ces dernières années, étant donné toute la spéculation immobilière qu'il y a dans notre pays, tu sais, la hausse des prix des maisons et tous les problèmes d'abordabilité qu'on voit au Canada en ce moment. Donc, le gouvernement a adopté des mesures pour essayer de freiner un peu les acquisitions de biens immobiliers par des acheteurs étrangers. C'est quoi tes commentaires là-dessus?
Donc, on parle ici du moratoire interdisant aux non-Canadiens, c'est-à-dire les gens. Il y a juste deux catégories qui ne sont pas des non-Canadiens, c'est les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada. Toutes les autres personnes sont des non-Canadiens, leur interdisant l'accès aux propriétés résidentielles. Propriétés résidentielles, c'est les suivantes: un condo, une maison en rangée, une maison, un condo en indivis ou un appartement en indivis, un duplex, un triplex. Donc, ils sont limités du condo jusqu'au triplex, n'ont pas le droit d'acheter dans les zones urbaines.
Il pourrait acheter un quintuplex.
Voilà,
Parce
quatre
que c'est comme quasiment oui, quadruplex ou quintuplex en montant, là, c'est rendu quasiment comme du commercial. Ouais.
plex. Vous avez raison. Le gouvernement ne qualifie pas les quadruplex de résidentiel. Voilà. On va parler des zones. C'est les zones urbaines et vous pourriez être très surpris de ce qui constitue une zone urbaine. Et ça prend un certain nombre d'habitants par mètre carré Je peux juste vous dire qu'il y a plein de villes au Saguenay qui se qualifient comme zone urbaine. C'est très, très, très surprenant.
OK, c'est pas obligé d'être Montréal, Québec, les
Non.
grandes villes. OK.
Si on parle de la région de Montréal, ça va aller, je vous donne un exemple, Montréal vers le nord, ça va jusqu'à Saint-Sauveur inclusivement. Donc, Tremblant est safe. Tremblant, c'est correct. Et ensuite, vers la rive sud, là, on se retrouve jusqu'à Marieville. On est quand même rendu un peu dans la campagne, là, à Marieville. Donc, c'est vraiment, ils veulent que les non-Canadiens, s'ils veulent acheter quelque chose, ça va être un chalet. Donc, un chalet, ben, on va se parler en fait de l'objectif de ce moratoire-là. L'objectif est de remettre dans les mains des Canadiens pour que les Canadiens y habitent des propriétés résidentielles. Est-ce que ça fonctionne? Je ne suis pas certaine. Honnêtement, Statistique Canada a des chiffres en lien avec le nombre de non-Canadiens qui détiennent des propriétés au Canada. À travers le Canada, on est à moins de 2 %. Au Québec, on est à 1 %. Et le plus haut pourcentage, bien entendu, c'est en Colombie-Britannique, on est à 3-4. C'est sûr qu'on est plus dans le condo aussi. Les étrangers investissent plus dans le condo, surtout en Colombie-Britannique où le condo est comme à 6 %. Ceci dit. Donc, ce que le gouvernement fait avec les zones, c'est que si on achète un chalet, on n'empêche pas une petite famille canadienne d'habiter dans un endroit proche d'une grande ville où la majorité des gens habitent et travaillent. Voilà. Donc, ça, c'est venu en effet le 1er janvier 2023. Toutes les personnes qui ont acheté du condo neuf, ça, il faut que j'en parle parce qu'il y en a beaucoup, du condo neuf ou de la maison neuve, les maisons, c'est moins souvent, c'est plus des condos, qui ont signé une offre d'achat avec le contracteur avant la mise en place du moratoire, ont le droit de notarier. Leur offre d'achat n'est pas contestée, elle est toujours valide parce qu'ils sont entrés dans cette entente avant que le moratoire soit en fonction. Donc, on va encore en avoir de l'étranger qui achète du condo au centre-ville de Montréal. J'en ai énormément encore. Donc, ça, c'est pour le moratoire.
Mais Julie, est-ce qu'il y a des exceptions aux gens qui peuvent acheter? Puis c'est supposé durer combien de temps, jusqu'à quand ce moratoire-là?
Le moratoire est géré par la SCHL. Ils ont un très beau site web qui est très, très bien expliqué, très détaillé. Éventuellement, là, plus les gens s'habituaient au moratoire, ils sont venus avec des petits amendés. Je suis heureuse de vous annoncer que toute personne qui est sur un visa de travail sur lequel il reste au moins 183 jours, c'est-à-dire 6 mois, au moment de notarier, donc de passer chez le notaire, peut acheter. Donc, quelqu'un qui habite au Canada, qui est sur un visa de travail, peut acheter une propriété sans problème. Son conjoint ou sa conjointe qui ne serait pas normalement éligible peut acheter avec eux. Moi, j'appelle ça le piggyback, mais c'est lié au conjoint-conjointe. On ne peut pas acheter avec papa, maman, frère, soeur, cousin, les amis. C'est vraiment limité à ces personnes-là. Ils ont mis des restrictions sur les étudiants. Honnêtement, les étudiants, j'en verrais pas un seul se qualifier pour l'acquisition de propriété. Et je pense que c'est fait de façon volontaire parce que les étudiants ont tendance à quitter dès qu'ils ont terminé. Les étudiants doivent être ici depuis 5 ans, avoir produit 5 déclarations d'impôts et être limités à 500 000 $ sur la valeur de la propriété qu'ils achètent. C'est très, très, très limitant. Moi, j'en connais pas d'étudiants qui sont ici depuis 5 ans et qui produisent des déclarations d'impôts. Donc, c'était une façon de les inclure et de les exclure en même temps. Je ne vais pas vous parler des réfugiés et de toute cette panoplie-là. Ça relève vraiment de l'immigration. Ces gens-là doivent avoir une lettre spécifique, blablabla, qui les rend éligibles à l'acquisition de propriété. Pour ce qui est de la durée, bien, ça avait été annoncé pour 2 ans, renouvelable. Malheureusement, il vient tout juste d'annoncer que ça ne se terminerait pas au 31 décembre 2024, malgré que je pense que les chiffres ne sont pas sortis. Je ne sais pas sur quoi ils ont basé leur décision, mais ça a été extensionné pour 2 autres années. Donc, on embarque 2025-2026 dans le calcul.
Et puis, pour revenir à, on s'entend, ça, c'est une mesure du gouvernement pour essayer de mitiger la hausse des prix des maisons et l'inaccessibilité au marché par les jeunes familles ou les Canadiens en général. Il y a une autre mesure qui a été mise en place qui est la taxe de 1% applicable aux propriétés sous-utilisées. Peux-tu nous en dire un peu plus?
Absolument. Écoute, c'est quelque chose qui a été annoncé dans le budget 2021, donc mars 2021, qui est rentré en fonction 1er janvier 2022. La première production devait avoir lieu le 30 avril 2023. Donc, c'est quelque chose qu'on produit à la fin de l'année, comme les impôts. Ici, on vise tous les non-Canadiens, encore la même description, non-Canadien qui n'est une personne qui n'est pas un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. Donc, dans cette production-là, on va inclure nos gens qui sont au Canada sur des permis de travail et des permis d'études et qui détiennent des biens immobiliers. Ouvrez vos oreilles, c'est très important. Cette nouvelle taxe, c'est une nouvelle production qui engendre une taxe. Je veux mettre ça vraiment au clair qu'il faut faire la production, se prévaloir d'une exemption s'il y en a une. Si on n'en trouve pas qui marche avec notre situation, la taxe de 1 % devient payable. La taxe de 1 %, elle est calculée sur l'évaluation à la ville. Donc ça, c'est la bonne nouvelle parce que comme on s'est dit tantôt, les valeurs à la ville souvent sont un petit peu plus basses que la valeur du marché. C'est 1 % qui est payable par propriétaire. Donc si on est trois, on a trois formulaires à compléter. Si on est trois puis on détient deux propriétés, on a six formulaires à compléter.
Mais on voit ça dans les nouvelles. C'est quoi exactement? Comment ils vont savoir que j'ai un condo qui est vide ou une propriété qui n'est pas utilisée pour me taxer là-dessus, pour me motiver à la louer ou quoi que ce soit? Comment ils vont déterminer ça?
Dans un premier lieu, on a les gens qui vont produire le formulaire, qui vont être obéissants. Il y a une panoplie d'exemptions qui vont de c'est moi qui habite dedans parce que je suis au Canada sur un permis de travail, moi ou mon conjoint. C'est mon enfant qui va à l'école, qui est sur un permis de travail, qui habite cette propriété-là. Et ça se limite à notre enfant. Ensuite de ça, c'est mon conjoint ou mon enfant qui est citoyen résident permanent du Canada qui habite dedans. Ça, c'est pour le monde qui habite gratuit dans les propriétés. Ça, c'est la première catégorie. Ensuite, on va avoir l'exemption pour, ben, c'est loué. J'ai un locataire. Donc, ce n'est pas inoccupé, ce n'est pas vacant. Je n'ai pas payé le 1 %. Mon enfant habite dedans et paye un loyer à la juste valeur marchande. Ça, j'en vois pas beaucoup, des gens qui chargent un loyer à la juste valeur marchande de leurs enfants. On retomberait probablement dans, soit c'est un étudiant, soit c'est un citoyen canadien. Entre les deux, il n'y a pas d'exemption. Puis là, il y a toutes sortes d'exemptions pour c'était endommagé, c'était en rénovation, c'est situé dans un endroit, un chalet qui n'a pas d'isolation, c'est trois saisons. La route n'est pas ouverte l'hiver. Ça, il n'y en a pas beaucoup. À part ça, il y a quelques-unes, l'année d'acquisition, l'année du décès, bien entendu, l'année où on vend, on n'a pas à le faire. Ça fait pas mal le tour des exemptions disponibles.
Donc, si je comprends bien, c'est de l'autodivulgation. Dans le fond, tout le monde qui détient nos propriétés doit faire un choix de leur situation par rapport à cette propriété-là. Tu sais, je vis dedans, c'est loué. Et c'est comme ça qu'ils vont voir dans quelle case qu'on tombe pour voir si, en fin de compte, c'est sous-utilisé et nous charger la taxe.
Et voilà. On commence déjà à avoir des contrôles fiscaux en lien avec la TLSU de 2022, qui était la première année. On remarque qu'ils contrôlent quand c'est un étudiant qui habite dans le bien. Ils veulent avoir les transcripts de l'école, les cartes de crédit, etc., montrer que cet enfant-là habitait bien dans les lieux. Le deuxième qu'on a vu, c'est la personne habite physiquement dans cette propriété-là. Ça, c'est notre exemple du travailleur, la personne qui est sur un visa de travail. Et le troisième, c'est le locatif, que je trouve un peu aberrant parce que ces gens-là produisent déjà une déclaration d'impôt. C'est facile de faire le lien, de voir que ça fait 10 ans que c'est loué. Malgré, on reçoit quand même des demandes là-dessus et c'est assez exhaustif comme contrôle fiscal, je vais être honnête avec vous. Et vous vous souvenez tantôt, on a parlé au moment de la vente, comment le gouvernement va savoir si on a omis nos obligations fiscales. Ils ont ajouté la TLSU dans les obligations fiscales à vérifier quand quelqu'un vend sa propriété. Donc, la majorité de ces contrôles fiscaux-là viennent du fait que quelqu'un a vendu une propriété. Donc, tout, absolument tout doit être produit. Qu'est-ce qui arrive si on ne produit pas? 5 000 $ de pénalité par propriétaire, par propriété. J'ai un cas en ce moment où on se ramasse à presque 40 000 de pénalité si on ne produit pas. Ça va assez vite.
Mais ça, c'est un formulaire qui fait partie de notre déclaration d'impôt, là.
Non, c'est un formulaire à part, c'est le formulaire 2900 de la TLSU.
C'est fou quand même.
C'est fou,
Je pense que notre conversation, ça démontre encore une fois à quel point la fiscalité au Québec, au Canada, c'est complexe. Il y a beaucoup d'exceptions, de détails, de particularités selon notre situation personnelle. Ça montre à quel point aussi c'est important d'être accompagné par quelqu'un comme toi. Je suis sûr que les auditrices et auditeurs peuvent voir toute ton expertise. On a parlé d'impôts non résidents, des personnes qui partent, qui reviennent, des immigrants, des personnes qui sont des acheteurs immobiliers étrangers. On a parlé d'immobilier. Donc, merci beaucoup, Julie, pour nous avoir été généreuse de partager toute ton expertise.
Merci beaucoup, Ruben, de m'avoir accueilli aujourd'hui. C'était très intéressant.
Julie, ça fait définitivement plaisir. Si je te demande ton mot de la fin avant qu'on se quitte, ça serait quoi? Puis aussi, prends l'opportunité aussi pour nous donner un peu de détails si les gens veulent en savoir plus, où ils peuvent te trouver, est-ce qu'il y a des ressources qu'ils peuvent consulter sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui?
Mon mot de la fin serait quelques mots, en fait, et serait n'assumez jamais rien. Parlez à votre comptable, prenez le temps d'évaluer les choses, ça peut vous sauver à la fin. Nous, ça nous fait plaisir de donner des conseils fiscaux. Vous pouvez nous trouver sur le site web www.chaisebleue.ca et on est toujours ouvert aux questions.
Merci beaucoup, Julie. Et à tous les auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de l'Investisseur transformé et à la prochaine.
Vous venez d'écouter l'Investisseur transformé animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre « L'investisseur transformé » et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leur propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leurs placements et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.